Bonsoir à toutes et à tous. Vers une nouvelle semaine de fournaise, la France va vivre à partir de demain un deuxième épisode de canicule après le premier fin juin. En pleine vacances d'été, certains fuient déjà les bains de soleil et lui préfèrent les embruns comme brumisateurs. Nous irons sur une plage du Nord dans ce journal. Greta Thunberg, honorée à Caen, la jeune militante écologiste suédoise a reçu le prix Liberté de la région Normandie. Entourée, c'est tout un symbole, par deux vétérans de la Seconde Guerre mondiale. C'est un navire qui veut pirater la politique migratoire de Matteo Salvini. Le Ocean Viking, successeur de l'Aquarius, arrivera à la fin du mois en Méditerranée. Il fait déjà polémique en Italie. La cause LGBT au cœur, bien malgré elle, de la campagne législative polonaise, entre la capitale, plutôt libérale à ce sujet, et le reste du pays, très conservateur. Une marche des fiertés dans l'Est a fini en affrontement entre la police et des groupes homophobes. Manifestation également à Hong Kong, où des dizaines de milliers de personnes ont défilé contre les violences policières, jusqu'à l'arrivée à nouveau brutale des forces de l'ordre en fin de journée. Et puis à la fin de ce journal, nous reviendrons sur toute l'actualité sportive de ce week-end et en particulier sur l'irrésistible ascension puis le petit coup de mou aujourd'hui de Julian Alaphilippe qui conserve toutefois le maillot jaune. 21 départements en vigilance canicule dès demain matin dans le sud-ouest et le centre-est de la France. Une zone qui ne va cesser de s'agrandir au fil de la semaine. Ces prochains jours, les Français vont à nouveau avoir chaud, trop chaud pour la deuxième fois de l'année. Un mois à peine après avoir déjà beaucoup tiré la langue sous le soleil. On en arrive même à ce paradoxe suprême. Cet été, de plus en plus de vacanciers cherchent la fraîcheur. Illustration à Malo-les-Bains, près de Dunkerque dans les Hauts-de-France. Une région qui ne va pas être épargnée par la canicule la semaine prochaine avec des records de température prévus, Clément Paulin.
Devant son camping-car, Martine finit de se préparer. Au programme plage et détente sous un parasol, la vacancière est venue chercher un peu de fraîcheur sur le bord de mer.
Ici, je pense qu'il y a toujours à peu près 5 à 6 degrés d'écart hein, entre Lille et puis Dunkerque, donc ça se prend.
La chaleur, c'est une bonne nouvelle pour Afed. Il est vendeur de glace sur la digue. Le saisonnier voit passer beaucoup de clients cet été et pas seulement des nordistes.
J'ai entendu parler cette année spécialement. Il y en a eu des touristes qui sont venus pour, du sud de la France, rien pour respirer, pour avoir de l'air. Parce qu'ici, il fait toujours moins chaud que dans le sud. Quoi.
Sylvain est justement remonté de Montpellier. Le natif de Dunkerque revient pour l'occasion voir sa famille. Il avait subi la canicule dans le sud le mois dernier.
Ça faisait depuis 3 semaines que c'était assez terrible. Hein, donc, quand c'est comme ça, on dort moins bien, on est un peu fatigué. Les Dunkerquois vont avoir aussi subir la canicule.
Le littoral sera légèrement plus protégé que l'intérieur des terres avec l'effet du vent. À Dunkerque, la barre des 30 degrés sera dépassée plusieurs fois cette semaine.
Et puis, comme si la canicule ne suffisait pas, elle arrive en pleine période de sécheresse. 73 départements sont aujourd'hui concernés par des restrictions d'eau, dont 26 en situation de crise, selon le site gouvernemental Propluvia. C'est la 7e vague de sécheresse la plus importante en France depuis 1958. L'un des principaux coupables de ces sécheresses et de ces canicules à répétition, il est connu, bien que pas encore reconnu par tout le monde, le dérèglement climatique, un phénomène sur lequel les scientifiques tentent d'alerter depuis des années et ils ont peine à se faire entendre. Et puis, il y a eu une voix, une petite voix qui a commencé à monter, à s'ajouter à celle des spécialistes. Alors une petite voix, ça vaut ce que ça vaut, ça attire les sarcasmes aussi. Mais celle-ci a finalement porté plus loin que prévu. C'est la voix de Greta Thunberg, 16 ans, qui fait grève de l'école tous les vendredis depuis près d'un an en Suède, jusqu'à attirer l'attention d'autres jeunes un peu partout dans le monde et de dirigeants. Elle sera reçue mardi à l'Assemblée nationale. La chancelière allemande Angela Merkel lui a rendu hommage et elle vient de recevoir à Caen le prix Liberté. Marcelin Robin était présent.
Lorsque Greta Thunberg monte sur la scène pour recevoir son prix Liberté, Alice est émue. Cette lycéenne de 18 ans a participé à plusieurs marches pour le climat après avoir vu des discours de la jeune engagée sur Internet.
C'est impressionnant comment elle est arrivée à mobiliser des milliers de jeunes partout en France et en Europe, comment elle a réussi à soulever un tel mouvement. Quoi. Et c'est vrai qu'elle fait poser plein de questions, et pas qu'aux jeunes, je pense. Et c'est pour ça que c'est assez impressionnant de pouvoir l'avoir ici.
L'adolescente suédoise est devenue une icône de l'écologie en quelques mois. Elle qui mène depuis moins d'un an une grève de l'école pour le climat tous les vendredis. La sécurité est omniprésente pour protéger la jeune fille qui porte un lourd poids sur ses épaules.
C'est une grosse charge pour les jeunes, c'est trop lourd. Mais il faut que l'on se rappelle que nous ne devrions pas porter ce poids seuls. On devrait s'assurer que ce soit aussi les adultes et les gens au pouvoir.
Fabrice est conquis par le discours de la militante pour la planète.
Pour beaucoup de causes qui mettent du temps, en général ça demande une génération, au moins. Pour faire bouger les choses. Donc, si les jeunes prennent ça à bras-le-corps, c'est peut-être pas gagné d'avance, mais c'est bon signe.
Greta Thunberg va donner les 25 000 euros de son prix Liberté à plusieurs organisations qui luttent contre le réchauffement climatique.
Reportage de Marcelin Robin de France Bleu Normandie. Une enquête ouverte après la mort à Rouen de Mamoudou Barry, un jeune universitaire guinéen de 31 ans, marié, père d'une fille. Il a été violemment agressé en pleine rue vendredi soir, verbalement puis physiquement, d'après ses proches, avant d'être pris en charge par les secours, hospitalisé au CHU de Rouen où il est décédé hier. Ses proches qui justement dénoncent une agression raciste. Christophe Castaner, un acte odieux. Il assure sur Twitter que tout est mis en œuvre pour identifier et interpeller l'auteur de l'agression, toujours en fuite pour l'instant.
Le journal de 19h sur France Inter.
Il arrivera sur place à la fin du mois, l'Ocean Viking, un navire sous pavillon norvégien envoyé par deux ONG, SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières, pour reprendre le flambeau de l'Aquarius immobilisé il y a 7 mois, après avoir secouru 30 000 migrants au large alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe par la Méditerranée. Une opération sous haute surveillance et pas dans le bon sens du terme. L'Ocean Viking risque d'être très vite entravé dans la mission qu'il s'est fixée, en particulier par un pays, l'Italie de Matteo Salvini, qui devrait tout faire pour la saborder. Antonino Gallofaro.
L'ONG française SOS Méditerranée est bientôt de retour en mer. L'absence de réponse européenne pour le sauvetage sur la route migratoire la plus dangereuse au monde a poussé l'organisation à affréter avec Médecins Sans Frontières l'Ocean Viking, un navire battant pavillon norvégien, après avoir dû laisser l'Aquarius l'année dernière. L'Italie, comme face à toute ONG en Méditerranée, gardera ses ports fermés. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, est devenu encore plus intransigeant. En désaccord avec la France et l'Allemagne sur l'accueil des migrants, le chef de la Ligue, le parti d'extrême droite au pouvoir, a annoncé aujourd'hui qu'il ne se rendrait pas à la réunion informelle sur la question migratoire avec ses homologues demain à Paris. Rome souffre d'un double affront français. D'abord, l'intention de la ville de Paris de décorer Carole Rackete, la capitaine du Sea-Watch, le navire qui a forcé le port de Lampedusa fin juin. Du point de vue italien, la jeune Allemande n'a pas respecté les lois nationales et a mis en danger les gardes-côtes italiens. Et enfin, la subvention, toujours de la ville de Paris, à SOS Méditerranée. L'Italie attend en effet l'Ocean Viking devant ses ports, considérés comme les plus sûrs, mais qu'elle gardera encore fermés. Rome, Antonino Gallofaro, France Inter.
Matteo Salvini, qui a également dénoncé l'attitude de la France et de l'Allemagne aujourd'hui, coupable selon lui de décider des politiques migratoires européennes en ignorant les demandes des pays les plus exposés. En Pologne, une marche des fiertés LGBT qui tourne au cauchemar. Des groupes nationalistes se sont invités à la fête pour tenter d'arrêter les 800 participants dans la ville de Białystok, à l'est du pays. Ils ont ensuite affronté les forces de l'ordre. Incident qui serait déjà inquiétant en soi, mais le pire, c'est que ce n'est pas le premier et qu'il s'inscrit dans un contexte plus général de tensions dans le pays autour des lesbiennes, gays, bi et trans. À 3 mois des élections législatives, la cause LGBT est devenue un thème de campagne, voire une cible privilégiée pour séduire un électorat souvent très conservateur. Les précisions de notre correspondant à Varsovie, Damien Simonard.
La première Gay Pride de l'histoire de Białystok n'était pas sans risque. La ville de près de 400 000 habitants, proche de la Biélorussie, est le bastion de nombreux groupuscules nationalistes. Ces derniers ont lancé pavés, bouteilles et pétards en direction des manifestants, protégés par des cordons de policiers qui ont répliqué par des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes. Il n'y a pas eu de blessés graves, mais ces incidents montrent une nouvelle fois qu'en dehors de Varsovie, capitale aux mains des libéraux, la communauté LGBT polonaise est prise pour cible. La question est devenue un thème de campagne à 3 mois des législatives. Officiellement, la très catholique Pologne ne reconnaît pas les couples homosexuels. Dans les villes libérales, les maires veulent instaurer l'idéologie LGBT, notamment par des cours d'éducation sexuelle dès l'école primaire. À l'inverse, selon l'ONG Campagne contre l'homophobie, une trentaine d'assemblées régionales polonaises se sont déclarées zones libres de l'idéologie LGBT. Le quotidien ultra-conservateur Gazeta Polska va même offrir prochainement à ses lecteurs des autocollants d'une grande croix noire barrant un arc-en-ciel avec l'inscription « Ceci est une zone sans LGBT ». À Varsovie, Damien Simonard pour France Inter.
À Hong Kong, c'est une marée humaine qui a investi les rues ce dimanche. À nouveau, les organisateurs parlent de 430 000 personnes. Manifestation qui réclamait aujourd'hui une enquête indépendante sur les violences policières autour du mouvement pour demander le retrait d'un projet de loi d'extradition. Le défilé du jour a commencé dans le calme, mais la situation s'est tendue ces dernières heures. Florence de Changy.
Alors que la nuit est tombée et que les manifestants ont bloqué plusieurs routes sur l'île de Hong Kong, la police a d'ores et déjà sorti des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser la foule, notamment devant le bureau de liaison de Pékin, le bureau des autorités centrales à Hong Kong. Car les manifestants sont finalement allés plusieurs kilomètres au-delà de la route autorisée par la police. Jusque-là, la police avait pour ainsi dire été invisible et ce nouvel après-midi de marche s'était déroulé dans une ambiance des plus pacifiques. Il faut dire que les Hongkongais sont rompus à l'exercice. Ils ont leur patch de froid sur le front, le ventilateur à pile et la bouteille d'eau à la main, le sac sur le dos. Parmi eux, un grand costaud, masqué de noir jusqu'aux lunettes, nous explique la signification de l'immense drapeau noir qu'il porte et brandit dans la foule.
C'est une continuation de notre code vestimentaire, car nous sommes tous en noir. Ensuite, un drapeau noir, c'est l'opposé d'un drapeau blanc qui veut dire se rendre. Donc nous, c'est le contraire, on n'a aucune intention de renoncer. Et c'est aussi pour faire le deuil des gens qui ont perdu leur vie pendant ce mouvement.
Mais la tension monte à présent à différents endroits de l'île de Hong Kong. La plupart des jeunes présents sur place sont à présent masqués. Des barricades sont érigées et tout indique que les échauffourées vont durer une bonne partie de la nuit. Hong Kong, Florence de Changi, France Inter.
Et selon des médias locaux, des hommes masqués et vêtus de blanc, armés de bâtons, ont attaqué tout à l'heure les manifestants anti-gouvernementaux, passant à tabac notamment un journaliste présent sur place. Le reste, vous le connaissez par le cinéma. Un titre intriguant pour une des pièces les plus marquantes du Festival d'Avignon 2019. Relecture de la tragédie d'Euripide, les Phéniciennes, par l'anglais Martin Cramp. Mise en scène par Daniel Janto. Et pour l'occasion, il a dirigé des comédiens professionnels, mais aussi des comédiennes amateurs qui se mêlent à l'histoire des jeunes filles qui viennent de Gennevilliers en région parisienne. Le résultat a enthousiasmé notre envoyé spécial Stéphane Capron.
Sur la page opposée, vous trouverez des instructions pour le sacrifice des humains.
Martin Cramp a réécrit la tragédie d'Euripide dans la langue d'aujourd'hui, tout en conservant la poésie initiale de l'œuvre. On y croise tous les héros grecs et dans le décor d'une salle de classe en désordre, Daniel Janto dirige un chœur de jeunes filles qui donne de la spontanéité à la pièce.
Des fois, dans des rencontres, dans des collèges ou des lycées, j'étais tombé sur des groupes de filles un peu déchaînées, insolentes, qui s'en foutaient complètement de mon intervention de metteur en scène, mais qui n'en perdaient pas une miette néanmoins. À la fin de la séance qui pouvait être un peu chahutée, je me rendais compte qu'elles avaient tout écouté et elles me renvoyaient une question, elles me poussaient dans mes retranchements, elles manifestaient de la lucidité et de l'intelligence, y compris d'ailleurs sur cette espèce de propagande qu'on essaye toujours de faire dans le milieu scolaire. Particulièrement d'ailleurs en banlieue où les filles, les très jeunes filles, ont souvent une place qui aujourd'hui commence à se restreindre. Elles sont davantage qu'à une certaine époque assignées à une place. On leur demande de surveiller leur tenue vestimentaire, etc. Donc on voit des filles qui luttent contre ça, qui ont de l'intelligence, qui s'en foutent de ne pas avoir de place conventionnelle dans le monde.
C'est l'un des spectacles les plus remuants de ce festival, avec dans le rôle de Jocaste la très grande Dominique Raymond. Elle est tout simplement incroyable.
Et pour voir cette pièce, le reste, vous le connaissez par le cinéma, c'est jusqu'à demain à Avignon pour les plus chanceux, mais aussi en tournée à partir de janvier 2020. Si je vous dis sport d'été, évidemment vous risquez de me répondre cyclisme, mais ça c'est parce qu'on ne vous parle que du Tour de France depuis quelques jours. Mais il y a une autre bonne réponse, liée plutôt à l'apéro de fin de journée que vous prenez peut-être en ce moment, la pétanque, même si ce sport presque aussi indissociable de l'image du français typique que le béret ou la baguette a de la concurrence ces dernières années, comme le molki, ce jeu de quilles finlandais très à la mode. Les boules et le cochonnet, c'est toujours du sérieux. Illustration à Saint-Vaury dans la Creuse, où se termine dans la soirée la 17e édition du National à Pétanque. On y croise des joueurs venus des six coins de l'Hexagone, Sarah Vildieuil.
A commencer par David, il porte le t-shirt jaune de son équipe, venu tout droit du bassin d'Arcachon.
Tu n'es que les boules. Enfin, ouais, on s'est compris.
La pétanque, c'est son truc depuis qu'il est tout petit, comme le jeune Maxime de Dordogne. Devant lui, une équipe en noir et une en rose, celle de son père.
Il y a du jeu, et une belle équipe en face. Mon papa est en train de tirer.
Ah, c'est pas mal.
Oui.
Sur le terrain, on se concentre pour lancer sa boule près du cochonnet, sans trop se mettre la pression non plus.
C'est avec lui, je crois.
Et vous avez vu arriver, là. C'est la première qui met.
C'est la première qui met.
Mais le National à pétanque de Saint-Vaury, c'est du sérieux. La preuve avec la présence de Patrick Bujat, il est arbitre international.
Je suis venu à Saint-Vaury parce que bon, il s'agit d'un national et il ne faut pas oublier que la pétanque au départ est quand même un sport de masse et que bien qu'il ait le haut niveau, il ne faut pas oublier les autres joueurs également.
Tous les participants n'ont qu'un mot à la bouche, convivialité, même quand la victoire n'est pas au rendez-vous. Valérie et Marilyn de l'Indre sont bonnes perdantes.
Moi, c'est la deuxième année que je viens.
Moi, c'est la première fois.
Toi, c'est la
première, mais c'est super, quoi. À refaire, même l'année prochaine, je reviendrai.
En attendant, elles vont reprendre des forces pour la suite de la compétition. Tiens, on dirait bien que ça sent la merguez.
Allez, on quitte les terrains de pétanque pour le bitume des routes françaises avec des ralentissements dans la vallée du Rhône, Manon Vautier-Cholet.
Oui, surtout dans le sens des départs en vacances, hein, sur l'autoroute du Soleil, la 7. Les ralentissements commencent au péage de Valence en direction de Marseille. Il faut compter, par exemple, 35 minutes de route jusqu'à Montélimar. Et puis ça coince ensuite entre Montélimar et Orange avec là une petite heure de trajet, c'est deux fois plus que d'habitude. Des ralentissements aussi dans le sens des retours, hein, toujours sur la 7 avec 1h15 de route de Montélimar pour remonter cette fois à Valence. C'est une demi-heure en temps normal et c'est bien le point noir, hein, de ce dimanche soir sur la route puisque ça roule plutôt bien ailleurs dans le pays. Pas de ralentissement à signaler sur la 10 entre Paris et Bordeaux ou encore sur la 61 de Toulouse à Narbonne et pas de ralentissement non plus en région parisienne.
Merci beaucoup Manon Vautier-Cholet, OPC Mobilité de Radio France.
La météo avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Et en attendant la canicule, on écoute les prévisions de Jean-Michel Golinski de Météo France.
Une chaleur de plus en plus étendue au fil des journées avec des températures caniculaires qui deviendront un peu plus raisonnables par l'ouest en fin de semaine. Pour l'heure, bon nombre de départements de la moitié sud du pays sont placés en vigilance orange canicule. En effet, l'air chaud qui remonte de la péninsule ibérique va donner ce lundi après-midi des valeurs de 38 à 40 degrés au sud de la Loire, 25 à 33 plus au nord. Ensuite, jusqu'à jeudi, ces températures caniculaires vont gagner l'ensemble du pays, les thermomètres affichant une trentaine de degrés sur les rivages et généralement 35 à 40 dans l'intérieur, avec souvent des nuits supérieures à 20 degrés. En fin de semaine, la position des centres d'action, c'est-à-dire anticyclones et dépressions, va changer, permettant l'arrivée d'un air plus respirable par l'ouest.
19h16 sur France Inter, on passe au sport. Et c'est avec vous Thomas Coignac, bonsoir.
Bonsoir Olivier, bonsoir
à tous. On commence évidemment avec le Tour de France qui en a fini, hein, ça y est, avec les Pyrénées.
Oui, ça y est, fin des 4 étapes pyrénéennes avant un jour de repos demain. Victoire de Simon Yates aujourd'hui à Pradalbis sur les hauteurs de Foix. Deuxième victoire dans ce Tour pour le Britannique. Bonsoir Fabrice Rigobert.
Bonsoir Thomas, bonsoir à toutes et à tous.
Bon, victoire britannique, mais double bonne nouvelle pour les Français. Julien Alaphilippe, même s'il a perdu un peu de temps, conserve son maillot jaune. Et puis, Fabrice, l'homme du jour, c'est encore Thibaut Pinot.
24 heures après avoir survolé le Tourmalet, il est allé reprendre du temps à tous ses adversaires et il s'affirme maintenant comme un candidat sérieux à la victoire finale. Le franc-comtois de 29 ans est une nouvelle fois passé à l'attaque sur les pentes du Prat d'Albis, sur un terrain préparé par son fidèle lieutenant David Godu, qui a procédé à l'essorage du groupe des favoris dans la montée finale. Thibaut Pinot a accéléré à 6 km de la ligne pour rejoindre son coéquipier Sébastien Reichenbach, membre de l'échappée du jour, avant d'accélérer de nouveau, suivi dans un premier temps par le Colombien Bernal et le maillot jaune avant que ces derniers ne lâchent. C'est avec 33 secondes de retard sur le vainqueur du jour, Simon Yates, rescapé de l'échappée matinale et lauréat de sa deuxième étape après Bagnères de Bigorre, que Thibaut Pinot a franchi la ligne sous une pluie battante, mais avec 17 secondes d'avance sur Bernal, 49 sur Geraint Thomas, 1 minute 16 sur le maillot jaune, sans compter 6 petites secondes de bonification.
Ce que je sais, c'est que voilà, j'ai repris du temps à tout le monde et c'est le principal. Ça, c'est mon temps aussi, donc c'est ma météo et il fallait que j'en profite. C'était une belle étape comme j'aime. Voilà, aujourd'hui j'ai des bonnes sensations, il fallait que j'en profite. Je savais que la fin était un peu moins raide, donc voilà, je savais que même si j'attaquais dans le raid, je prenais pas trop de risques à mettre dans le rouge parce que voilà, je savais qu'après dans les roues, peut-être que si je me faisais contrer, il y avait moyen de suivre quand même.
Au classement général, Thibaut Pinot revient à la 4e place, à 1 minute 50 de Julien Alaphilippe, à 3 secondes de la 3e place du Néerlandais Kruijswijk, à 15 secondes seulement de la 2e place de Geraint Thomas. Il faut garder la tête froide, explique avec le sourire Philippe Mauduit, directeur sportif de Thibaut Pinot. Après ce chef-d'œuvre tactique digne d'une leçon sur tableau noir, deux coureurs de la FDJ figuraient en effet dans l'échappée du jour. Philippe Mauduit.
On va rester prudent parce qu'il reste une semaine. On va sortir des Pyrénées, il restera toute une montagne qu'on n'a pas eu à franchir l'année dernière. En sortant des Pyrénées, on a autant de dénivelé dans les jambes que dans tout le tour l'année dernière. Donc on peut s'attendre encore à des défaillances dans les Alpes. Il faut rester prudent, mais il faut aussi rester conquérant avec cet esprit offensif.
Julien Alaphilippe est lui allé au bout de ses forces pour sauver son précieux maillot jaune dans l'ultime montée, obligé de faire rouler son équipe toute la journée pour contrôler l'échappée de 36 coureurs dans laquelle avait pris place le Colombien Nairo Quintana ou encore Romain Bardet. Julien Alaphilippe qui a conservé une avance d'1 minute 35 sur Geraint Thomas.
Je m'y attendais. C'était une étape vraiment très très difficile. L'objectif pour nous ce matin, c'était de garder le maillot jaune. Donc objectif rempli et pas surpris d'avoir perdu du temps. J'ai tout donné et je suis content d'être en jaune une journée de plus. C'est pas une surprise, je commence à payer tous mes efforts et le plus dur arrive. Donc je veux juste continuer de profiter.
Et pour la deuxième journée de suite, les coureurs d'Ineos, l'ex-Sky, ont perdu du temps. Egan Bernal et Geraint Thomas, le vainqueur sortant du tour, lâché dans l'ultime montée par Thibaut Pinot.
Maybe I should have jumped Alaphilippe sooner.
J'aurais peut-être dû lâcher Alaphilippe plus tôt, mais bon, je me sens bien, j'avais de bonnes jambes. À la fin, c'est ça le plus important. Maintenant, j'attends les Alpes dans une bonne position. J'aurais préféré pas perdre ce temps, évidemment, aujourd'hui sur Pinot, mais je suis confiant, je me sens de plus en plus fort.
Et si coureurs se tiennent en 2 minutes 14, Thomas, au classement général, ça promet en vue des Alpes.
Oui, et à retenir aussi, Fabrice, aujourd'hui, c'est l'orgueil de Romain Bardet.
Oui, après avoir perdu 20 minutes dans l'étape du Tourmalet hier, le deuxième du Tour de France 2016 s'est battu pour être dans l'échappée du jour, pour rester à portée de Yates, vainqueur du jour, et de Simon Geschke dans le mur de Péguer, avant de craquer dans l'ultime montée. Romain Bardet qui a tout tenté aujourd'hui.
Je vais essayer de reprendre un peu de vie, être un peu acteur sur ce tour avant le repos, c'est important. Voilà, c'est vrai que c'est aujourd'hui le mental qui a guidé un petit peu, je voulais absolument en fin d'échappée, j'ai laissé beaucoup d'énergie. J'étais quand même content de me retrouver à l'avant, même si vous voulez, on a manqué un peu au final. Je pense que c'est une bonne marque, c'est un pas en avant pour les Alpes.
Le peloton va maintenant pouvoir profiter de sa deuxième journée de repos demain à Nîmes. Les deux premières semaines ont été particulièrement éprouvantes, confirme Johan Ofredo, la lanterne rouge de ce Tour de France, 164e du classement à 3h14 du maillot jaune.
Elle est bienvenue, effectivement. Je pense que là, il va falloir vraiment souffler un grand coup. On se rend compte qu'au fur et à mesure des jours sur le Tour de France, au début, j'étais tout seul dans les groupes Eto. Après, on était deux, après trois, après quatre. Et puis là, on commence à être 20, 25. Peut-être que la semaine prochaine, on sera 50. Et franchement, c'est une bonne petite journée galère.
Le peloton reprendra la route après-demain avec une boucle autour de Nîmes avant de mettre le cap à l'est et le massif alpin pour une ultime explication entre leaders.
Et on vous remercie, Fabrice Rigobert, en direct de Foix à l'arrivée de cette 15e étape du Tour de France remportée donc par le Britannique Simon Yates.
Allez, on va se rafraîchir un petit peu, Thomas. On plonge dans les bassins pour les championnats du monde de natation.
Oui, parce que ce sont les épreuves en piscine les plus prestigieuses qui ont commencé aujourd'hui. Pas de médaille pour les Français, mais il y a eu tout de même une finale cet après-midi. Le relais 4 x 100 mètres qui a terminé 8e et dernier, loin du podium États-Unis, Russie, Australie. Le relais français qui était composé de Jérémy Stravius, Clément Mignon, Tom Paco Pedroni et Mehdi Metella. Écoutez-le, qui est assez philosophe.
Les Français croient que ça y est, on a un relais, on est tout de suite champion du monde, c'est pas comme ça. C'est comme un nourrisson, avant qu'il atteigne la taille adulte, il doit apprendre beaucoup de choses, il doit apprendre la politesse, à savoir marcher, ses comportements et tout. Et ben notre relais c'est ça. C'est 8e, c'est après 5e, 4e, après on pourra jouer les podiums.
Et Mehdi Metella qui voudra jouer des podiums sur les épreuves individuelles. On le retrouvera sur le 100 mètres nage libre et le 100 mètres papillon. Et sur cette épreuve d'ailleurs, le 100 mètres papillon, chez les femmes, grosse performance aujourd'hui de la nordiste Marie Wattel qui s'est qualifiée pour la finale de demain en battant son record personnel.
Et puis il y a eu une grosse surprise aussi avec la défaite d'une des stars de la natation mondiale.
Oui, Kathy Ledecky, l'américaine qui a terminé deuxième du 400 mètres, battue par la très jeune australienne Titmus, 18 ans. Ledecky n'avait pas perdu sur cette distance en grand championnat depuis 6 ans. Et puis il y a une polémique aussi à ces mondiaux de natation. L'Australien Mac Horton, deuxième du 400 mètres nage libre, qui refuse de faire une photo avec le vainqueur, le chinois Sun Yang. Sun Yang qui a récemment échappé à un contrôle antidopage en brisant l'échantillon à coups de marteau.
On passe à un autre championnat du monde, celui d'escrime qui se passait à Budapest.
Oui, aujourd'hui c'était l'heure des épreuves par équipe. On retrouvera deux équipes de France en quart de finale demain. Celle d'épée masculine qui s'est qualifiée cet après-midi. Tout comme le fleuret féminin qui a éliminé Singapour en huitième de finale, avec notamment dans l'équipe la Guadeloupéenne Isaora Tibus.
Tout le monde a bien tiré. Je suis contente qu'on ait fait un match propre. On a tout de suite pris le large et on a fait un score assez conséquent. Du coup, c'est une bonne mise en jambe pour demain. On est contente. La vraie compétition commence demain. On fera un plan d'attaque et après on ira à la guerre.
Et le fleuret français qui a déjà réussi sa compétition hein, puisqu'il a rapporté pour l'instant les deux médailles françaises en argent avec Pauline Ranvier et en or avec Enzo Lefort.
Autre française qui gagne aujourd'hui, ça se passe en tennis.
Et c'est même le premier titre de sa carrière à 22 ans. Fiona Ferro, 98e mondiale. mondial, a remporté cet après-midi le tournoi de Lausanne en Suisse en s'imposant en 3-7 contre une autre Française, Alizée Cornet. Alors dans cette finale entre compatriotes, les émotions de Fiona Ferro étaient un peu particulières.
Sur le coup, c'était un petit peu dur de réaliser. Et puis, comme j'ai joué une fille que je connais bien et tout, j'ai pas forcément envie de trop montrer mes émotions non plus. Parce que je suis aussi soulagée que ce match soit terminé. Parce que c'était une finale très compliquée contre une amie. Et on se connaît très bien. Et c'était un match où il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions. Voilà, je prends aussi en considération qu'elle est très déçue. En plus, je pense qu'aujourd'hui, elle a vraiment pas joué son meilleur tennis. Donc, j'ai pas envie d'en remettre une couche en célébrant ma victoire. En plus, d'ordinaire, je suis déjà pas quelqu'un de très expressive. Qui va lever les bras à chaque victoire. Je suis très heureuse, mais je pense que je vais en prendre conscience petit à petit. Ouais.
Fiona Ferro, vainqueur donc d'Alizée Cornet. Et on retrouvera les deux femmes lors de la finale de la Fed Cup avec l'équipe de France. Ce sera en Australie au mois de novembre.
Duel franco-français, toujours avec du football, du soccer, de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui. Welcome to Washington. Bienvenue à Washington pour la Ligue 1 qui dispute là-bas des matchs amicaux pour faire la promotion du foot français. Ça s'appelle les EA Ligue 1 Games. Voilà, ça oppose Saint-Etienne à Marseille. C'est la finale à 3h du matin, heure française. Un peu plus tôt à minuit, c'est le match pour la troisième place entre Montpellier et Bordeaux. Toujours en football, deux jours après la fin de la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc n'a plus d'entraîneur. Le français Hervé Renard a démissionné aujourd'hui. Il était à la tête des Lions de l'Atlas depuis 3 ans. Démission après l'échec du Maroc battu en 8e de finale de la CAN par le Bénin.
Athlétisme maintenant avec la belle performance de Willem Belosian.
Oui, il a été tout proche de remporter le 110 mètres et du meeting de Londres qui compte pour la prestigieuse Ligue de Diamants. Tellement proche que ça s'est joué à la photo finish. Belosian, deuxième derrière le chinois Xie, en 13-28 à 3 centièmes de son record personnel après 2 saisons où il a été blessé. Belosian revient donc en forme avant les championnats du monde au Qatar en septembre. Et puis un autre résultat qui est tombé cet après-midi, c'est la fin du Tour de France à la voile, qui est moins médiatique que son homologue sur les deux roues. Tour de France à la voile remporté par l'équipage de Valentin Belay sur son bateau Béjaflore. Il était en tête depuis le tout début de la course, il y a 2 semaines. Ça a été serré jusqu'au bout avec le bateau qui termine 2e, Cheminée Poujola, qui a remporté la dernière étape du côté de Nice.
Puis une fois n'est pas coutume, un mot d'équitation pour terminer ce journal. On va même carrément vous emmener dans la Mecque du cheval.
Et la Mecque du cheval, c'est à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle se termine ce soir. Mais ce n'est pas son niveau qui le rend unique, c'est son public. C'est ce que dit Olivier Robert qui, jeudi, a terminé 3e de la Coupe des Nations avec l'équipe de France devant 48 000 personnes, comme s'il avait monté devant un Parc des Princes à guichet fermé. Olivier Robert.
C'est quelque chose de tout à fait hallucinant. Je croyais que ça pouvait exister que dans le football ou le rugby de haut niveau. Et là, c'est quand vous rentrez dans cette arène, c'est tout à fait incroyable, exceptionnel, exceptionnel. Là, c'est vraiment un stade équestre qui sert que pour le concours hippique avec tribune couverte et c'est plein de mercredi à dimanche. Si vous me demandez si je préfère partir en vacances pendant 15 jours à l'île Maurice ou aller monter à Aix-la-Chapelle sous la pluie, il n'y a pas photo. Je préfère aller à Aix-la-Chapelle.
Et voilà, vous avez retenu, Olivier, pour votre prochaine destination de vacances, Aix-la-Chapelle sous la pluie.
Ça, je vais y réfléchir. Voilà, c'est pas forcément gagné. Merci beaucoup, Thomas Coignac, pour ce point très exhaustif sur les sports.